C'est toujours assez fascinant de réfléchir à la façon dont nos sociétés mesurent et célèbrent le succès au fond.
Ah oui, c'est vrai qu'on a un peu cette obsession de la ligne d'arrivée.
Bah oui, exactement. On regarde le résultat final, la personne qui lève les bras, et c'est tout. Mais que se passe-t-il quand un pays décide de changer les règles? Quand on décide de célébrer pas seulement la réussite individuelle, mais vraiment l'impact social et stratégique global?
C'est là qu'on bascule dans quelque chose de beaucoup plus profond. On passe du simple divertissement à une vraie mécanique de développement.
C'est clair. Et pour les personnes qui nous écoutent aujourd'hui et qui adorent plonger au cœur des sources, on a une analyse approfondie qui tombe à pic. Notre exploration repose sur une chronique très pointue qui a été diffusée par Radio Tam Tam Africa.
Ah, Radio Tam Tam Afrique. D'ailleurs, leur devise annonce tout de suite la couleur, c'est la voix de l'Afrique, le pouvoir des faits.
Le pouvoir des faits, voilà. On n'est pas dans la théorie pure. L'idée aujourd'hui, c'est de décrypter un événement majeur qui est prévu le 31 juillet 2026.
À Libreville, au Gabon, c'est bien ça?
Exactement, à Libreville. C'est la deuxième édition des Awards de la femme gabonaise.
Sur le papier, ça sonne comme un bel événement de gala, hein?
Ouais, sur le papier seulement. Parce que notre mission aujourd'hui, c'est justement de comprendre en quoi cet événement dépasse le simple cadre du tapis rouge pour devenir un véritable moteur de développement. Décortiquons un peu tout ça.
C'est la meilleure approche. Il faut vraiment gratter sous le vernis de la cérémonie.
Avant même de regarder qui reçoit un prix, il faut qu'on parle du poids institutionnel de sa soirée. Parce que ça, c'est pas un détail.
Ah bah c'est même le cœur du sujet en fait.
Les chroniques précisent deux choses cruciales. D'abord, c'est une deuxième édition. Et surtout, c'est organisé en partenariat officiel avec le ministère des Affaires sociales du Gabon. Le document parle carrément de vitrine nationale.
Ce qui est fascinant ici, c'est cette mécanique de légitimation étatique. On n'est plus du tout dans une initiative isolée ou un petit projet associatif.
Donc le fait d'avoir un ministère impliqué, ça change vraiment tout.
Totalement. C'est le passage d'une expérimentation à une institution pérenne. Une première édition, c'est un test. Mais quand on passe à la deuxième et que l'État s'en mêle, ça devient une vraie démarche intégrée à la politique du pays.
C'est un peu comme si on comparait ça à de célèbres remises de prix artistiques qu'on voit à la télé.
Genre les Oscars ou les Césars?
Ouais, voilà. Mais avec une différence fondamentale. Ces prix artistiques, au fond, ils récompensent le divertissement, l'industrie du spectacle.
C'est de la reconnaissance entre pairs, oui.
C'est ça. Mais là, l'implication du ministère des Affaires sociales, ça transforme l'événement en un véritable accélérateur étatique pour la société entière.
Ah, c'est une très bonne façon de le formuler.
Du coup, ça pose une question. En quoi ce partenariat gouvernemental change-t-il vraiment la perception du leadership féminin au niveau national?
Bah, ça envoie un message extrêmement fort. Ça dit que la réussite des femmes n'est pas juste une belle histoire qu'on met dans un magazine, mais que c'est un pilier central de l'évolution de la nation. L'État appose son sceau de validation.
Un sceau de validation qui donne une envergure dingue. Et quand on regarde de plus près qui est validé, franchement, le casting est surprenant.
C'est vrai que les catégories retenues sont loin d'être habituelles pour ce genre de cérémonie?
Bah oui, parce que maintenant que le cadre institutionnel est posé, on peut regarder les actrices de cette fameuse transformation. Et la source liste 5 catégories de nominées.
Les fameux 5 piliers.
Voilà. Alors je les cite. On a les entrepreneurs innovantes et les actrices de la transformation digitale. Bon, jusque-là, on est dans l'économie classique, l'innovation tech.
Oui, c'est le profil typique qu'on s'attend à voir.
Mais là où ça devient intéressant, c'est qu'on y ajoute les figures culturelles influentes et puis les leaders communautaires engagés. Et enfin, attention, les professionnels du social et du développement.
C'est un mélange de profils qu'on a très peu l'habitude de voir sur une même scène.
Mais carrément, mettre une patronne du digital à côté d'une professionnelle du social, c'est quoi l'idée derrière ça?
L'idée, c'est d'avoir une vision véritablement holistique du développement durable. La source l'explique très bien, ces femmes participent ensemble à la transformation économique, sociale et culturelle du pays.
Donc on ne peut pas isoler l'économie du reste.
Exactement. L'innovation ou le digital, ça ne peut pas avancer sainement si on n'a pas la cohésion sociale et la culture pour cimenter le tout. C'est une synergie obligatoire.
C'est hyper visuel dit comme ça. En fait, on pourrait faire une analogie avec la construction d'un pont géant.
Oh, j'aime bien cette idée, vas-y.
Bah, pour construire un pont, t'as absolument besoin des ingénieurs, on est d'accord. Ça, c'est le digital et l'entrepreneuriat. Eux, ils s'assurent que la structure est solide, que les fondations tiennent.
C'est l'ossature du projet.
Voilà. Mais un pont super solide, s'il relie deux déserts ou s'il détruit les quartiers autour, il sert à rien.
C'est clair, c'est un échec total.
Et donc, c'est là qu'interviennent les urbanistes et les travailleurs sociaux. Ça, ce sont les leaders communautaires et les figures culturelles. Eux, ils s'assurent que le pont relie effectivement les bonnes communautés, que l'infrastructure a un sens humain.
C'est une excellente métaphore. Sans les ingénieurs, le pont s'écroule, mais sans les urbanistes, le pont ne sert à personne. Les deux expertises sont sur un pied d'égalité absolue.
Ce qui amène à se demander, est-ce qu'on n'assiste pas ici à une redéfinition même du mot leadership ?
Ah, je pense que oui, complètement. Le leadership n'est plus juste défini par le chiffre d'affaires, mais par la capacité à s'interfacer avec les autres secteurs de la société.
Et c'est justement de cette fameuse interface qu'il faut parler. Parce que célébrer ces cinq piliers sous les projecteurs, c'est magnifique. Mais on le sait très bien, l'impact réel, il se joue une fois que les caméras sont éteintes.
C'est toujours là que les vraies choses se passent, en coulisses.
Et la chronique de Radio Tam Tam Africa est très claire là-dessus. Les awards ne se limitent absolument pas à une petite statuette et un discours. Ça se transforme ensuite en un forum d'échange stratégique.
Un espace de networking professionnel de très haut niveau.
Et surtout, un levier pour renforcer la présence des femmes dans ce qu'ils appellent les sphères décisionnelles.
Si l'on relie cela à la situation dans son ensemble, c'est vraiment le cœur nucléaire du projet. La notion de sphère décisionnelle est capitale.
Tu peux développer un peu ce point, parce que le mot networking, parfois, ça fait juste penser à des cocktails un peu ennuyeux où on s'échange des cartes de visite.
Oui, on a tous cette image en tête. Mais ici, le networking stratégique, c'est souvent le chaînon manquant dans l'autonomisation des femmes. On donne souvent des microcrédits ou des formations, mais l'accès au cercle fermé où se prennent les grandes décisions, c'est beaucoup plus rare.
Les fameuses portes closes où les lois et les budgets se dessinent.
Exactement. Et c'est là que le pouvoir d'influence se cristallise. Ces awards, c'est une porte d'entrée pour que ces femmes passent de modèles de réussite isolés à un véritable réseau de pouvoir structuré.
En fait, si on y réfléchit bien, on pourrait presque voir le trophée de la lauréate non pas comme une ligne d'arrivée,
mais comme un ticket d'or.
Un laissez-passer VIP pour la table des décisions, oui, c'est ça. Finalement, est-ce que le prix n'est pas simplement un prétexte brillant pour réunir les cerveaux les plus influents du pays dans une seule et même pièce stratégique ?
Un prétexte institutionnalisé et validé par l'État. Oui, c'est redoutablement intelligent. On utilise la lumière de l'événement pour légitimer un réseau d'influence extrêmement puissant en arrière-plan.
C'est fascinant comme stratégie. Et ce qui est encore plus fou, c'est que ce rassemblement à Libreville, il ne vise pas seulement le Gabon.
Non, l'ambition dépasse largement les frontières nationales.
Le document insiste sur une volonté d'onde de choc panafricaine. L'idée, c'est d'inspirer la nouvelle génération de jeunes filles partout en Afrique.
Mmh.
Et ils utilisent l'expression de « modèle de réussite concret ».
Et on en revient à la devise du média, le pouvoir des faits.
Au défi du continent.
L'exemplarité concrète, le fait de voir de ses propres yeux des femmes réussir dans l'innovation ou le digital, c'est infiniment plus puissant que n'importe quel discours théorique sur le développement.
J'aimerais bien qu'on s'attarde sur ce mot « concret » parce qu'il est central. Si on fait un parallèle simple, c'est comme apprendre à faire du vélo.
Tu veux dire qu'on ne peut pas l'apprendre dans les livres ?
Bah, c'est impossible. Tu peux lire un manuel de 200 pages sur la physique de l'équilibre et la rotation des pédales. Si tu n'as jamais vu quelqu'un pédaler devant toi, tu vas tomber. Tu as besoin de voir le fait concret pour que ton cerveau comprenne que c'est possible.
C'est une excellente illustration. Et c'est vital, parce que sans ces modèles visuels, les jeunes filles se heurtent à ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur.
C'est-à-dire ?
Comment la visibilité de ces femmes à Libreville agit-elle comme un antidote à ça ?
Imagine que le cerveau fonctionne un peu comme un algorithme de reconnaissance visuelle.
D'accord.
Si on nourrit cet algorithme uniquement avec des images d'hommes au poste de pouvoir, d'innovation ou de décision stratégique, le jour où l'algorithme rencontre une femme à ses postes, il affiche un message d'erreur. Il dit que le profil est incompatible.
Ah ouais, je vois. C'est le plafond de verre cognitif.
Exactement. Les jeunes filles intègrent silencieusement cette base de données biaisée. Et elles finissent par s'auto-censurer. Elles se disent intimement qu'elles n'ont pas leur place à ces niveaux-là, puisque l'image n'existe pas dans leur base de données interne. C'est terrifiant quand on y pense.
Mais en montrant ces awards, en diffusant les images de cette réussite validée par un État, on inonde la base de données avec de nouveaux exemples, bien réels. On détruit le message d'erreur de l'algorithme social.
On force une mise à jour du système pour toute la jeunesse qui regardera ça le 31 juillet 2026. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond, Eveleur ?
Ça signifie que le Gabon se positionne comme un symbole du leadership féminin en Afrique et qu'il utilise cette exemplarité comme un levier de développement massif.
C'est vraiment une mécanique de précision. Si on fait une petite synthèse de tout ce qu'on vient d'analyser, ces awards de la femme gabonaise, c'est très loin d'être une simple ligne dans l'agenda mondain de la capitale.
Ah oui, on l'a bien vu, ça n'a plus rien à voir avec des paillettes.
C'est un véritable écosystème en construction, une vitrine de l'excellence qui est validée directement par l'État. Un carrefour stratégique d'influence, le fameux ticket d'or.
Et bien sûr, une boussole cognitive pour la prochaine génération sur tout le continent.
Et ça pousse à se poser une dernière question, un peu provocatrice pour le coup. Si cet événement réussit vraiment à fusionner les forces digitales, sociales, culturelles et entrepreneuriales au sein d'un même pays pour accélérer son développement.
Ce qui est déjà un défi colossal en soi.
Oui, mais imaginons que ça marche. Que se passera-t-il le jour où ces réseaux de femmes superpuissantes commenceront à fusionner systématiquement, mais à travers les frontières?
Une sorte de toile d'influence continentale.
Exactement. Est-ce que les futures éditions de ce type d'événement, au Gabon ou ailleurs, ne deviendront pas inévitablement les véritables gouvernements de l'ombre de l'innovation panafricaine? Des réseaux d'influence capables de redessiner l'économie du continent tout entier, bien au-delà des traités politiques habituels.
C'est une perspective fascinante. On passerait d'une diplomatie classique à une diplomatie de l'innovation portée par ces réseaux interconnectés.
Une dynamique qu'il faudra suivre avec énormément d'attention. Un grand merci à toutes les personnes qui ont suivi cette analyse approfondie aujourd'hui. Il ne faut jamais s'arrêter aux apparences d'un événement. L'enjeu est toujours dans les coulisses. Gardons toujours cet esprit critique et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle plongée au cœur des sources.